Chapitre 12. Lorsque vous accusez l'autre de votre malheur, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous refusez de reconnaître le criminel en vous, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous endossez le rôle rassurant de victime, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous interférez dans le destin de l'autre, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous soumettez l'autre à votre dogme, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous vous soumettez au dogme de l'autre, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous vous condamnez à écouter le chant de l'autre, vous œuvrez pour l'incréer. Lorsque vous ne déployez pas votre unicité, vous œuvrez pour l'incréer. Chaque fois que vous reniez votre royauté, vous œuvrez pour l'incréer. Madhichari des Imliyas, fragment du traité dit « du buisson du fou ». Le regard d'Oniki, assis sur un rocher, vogue sur l'océan Gigène. Le vent du large, l'air venu des lointains tuyaux des grandes orgues, lui plaque les cheveux sur les joues et les lèvres. Les yeux ronds et scintillants des mouettes noires, seul éclat de lumière dans cet univers de ténèbres, tracent des arabesques furtives au-dessus d'elle. Des crêtes blafardes soulignent les collines ondulantes des vagues, se volatilisent sur les piliers de soutènement du bouclier de corail. La terre, l'air, l'eau, tout paraît noir sur l'île de Psalion, y compris l'âme d'Oniki. La vie s'est retirée de cette bande rocheuse désolée, cernée par les eaux, et s'est réfugiée dans son ventre qui s'arrondit de jour en jour, dans ses seins qui ne cessent de s'alourdir. Son prince inconnu lui a laissé un souvenir vivant. Sa semence a été plus puissante que les herbes tutaliques, censées enrayer l'ovulation des sœurs. À moins que l'extase d'Oniki, cette extase dont le souvenir hante ses insomnies, ne l'ait brutalement reliée à sa nature de femme. Quoi qu'il en soit, un petit être grandit en elle qui commence à se heurter aux cloisons de sa demeure de chair, à tambouriner avec impétuosité. Le ventre d'Oniki est d'ailleurs devenu le principal sujet de conversation sur l'île. Les proscrits de Psalion vivent plus ou moins en couple. Ils ont des relations sexuelles régulières, et même intensives car c'est un de leurs rares loisirs, mais avant d'être bannis, ils ont été stérilisés, hommes et femmes. Lorsque les matrions ont condamné Oniki au bannissement perpétuel, elles ont omis d'analyser ses urines, une procédure pourtant classique dans un cas de violation de la règle de chasteté. Ou elles avaient la tête ailleurs, ou elles avaient une confiance aveugle dans les herbes de Touta, où elles étaient peut-être tout simplement pressées. Elles ont décidé d'exposer la fautive sur la place centrale de Corallion sans respecter le délai de pénitence. Mais le cardinal d'Esgouve, gouverneur d'Ephren, leur a interdit de livrer Oniki à l'opprobre public, comme le veut l'usage. Si l'intervention du prélat lui a permis d'échapper à l'ire de ses complanétaires, aux regards outragés, aux insultes, aux crachats, elle ne put lui éviter l'exil. Au premier rayon de Xatimou, on l'a dépouillée de sa robe d'infamie, on l'a revêtue d'une robe grise de proscrite, on l'a escortée jusqu'au port et on l'a enfermée dans la cale d'une aquasphère de liaison. On ne lui a pas laissé le temps d'embrasser ses parents, dont elle a pourtant aperçu les silhouettes voûtées sur le quai, auréolées de lumière bleu pâle. Les larmes lui ont brouillé les yeux et elle n'est pas parvenue à croiser le regard de son père. L'aquasphère s'est élancée sur les eaux, s'est éloignée des colonnes de clarté tombant des tuyaux, s'est enfoncée dans une obscurité de plus en plus opaque. Les rayons rasants des projecteurs de la petite embarcation ont alors pris le relais des majestueuses cascades bleutées de Xatimou. Après 7 jours d'un voyage monotone, lugubre, Oniki a été débarqué sur la grève de sable noir de l'île. Les hommes d'équipage ont déchargé quelques caisses de vivres, de médicaments et 3 bulles-lumière en état de marche. Puis, sans proférer un mot, parler aux proscrits porte-malheur, on regagnait le large. Les nouveaux compagnons de Niki, rassemblés sur la grève, l'ont accueilli en silence. Sa robe grise les a immédiatement renseignés sur la nature de sa condamnation. Ils n'ont toutefois esquissé aucun geste agressif à son encontre. Une vieille femme, une ancienne tutale du nom de Soji, l'a pris sous son aile protectrice. Par chance, une grotte vient de se libérer. Son occupant est mort quelques jours plus tôt, étranglé par une arête de poisson. Le village est perché tout en haut de l'unique montagne de Bzalion. On y accède par un sentier sinueux, humide et glissant. Les proscrits ont élu domicile dans des grottes plus ou moins aménagées, reliées les unes aux autres par des galeries communicantes. Des pierres grossièrement taillées servent de tables, de chaises. Des algues séchées, tramées, sont utilisées comme matelas, comme couverture, comme cloison, comme rideau et même, lorsque l'usure et la puanteur gagnent les robes, les pantalons, les chemises ou les combinaisons, comme vêtements. Sur Bzalion, on se nourrit exclusivement des produits de l'océan Guigène, poissons, crustacés, mollusques, algues fraîches. Les pêcheurs, hommes ou femmes, emploient des filets fabriqués avec les fibres des lichens corallins qui tombent du bouclier de corail. On les fixe sur les rochers des criques et on les relève à marée basse. Les 4000 proscrits de l'île se répartissent les tâches et partagent tout. Si la pêche est mauvaise, personne ne mange à sa faim, mais tout le monde mange un peu. Si la pêche s'avère fructueuse, chacun peut se rassasier. Ceux qui ne pêchent pas se consacrent au nettoyage des grottes, à la vidange des fosses excrémentielles. Travaux fastidieux car on ne dispose que des 3 ou 4 bulles-lumière que livre irrégulièrement l'aquasphère de liaison et on ne distingue pas grand-chose dans le cœur de la montagne. À la marée montante, l'ample respiration de l'océan Guigène rythme la vie de l'île, on se rassemble sur le plateau entouré de falaises et on fredonne les vieilles comptines éphréniennes, les chants des pionniers. Certains imitent la vibration du vent dans les tuyaux des grandes orgues et des larmes silencieuses coulent sur les joues des hommes et des femmes. Des fous se proclament conteurs et se lancent dans d'interminables histoires qui sèment des rires dans l'assistance. La première fois qu'elle s'est trouvée face à ces trognes inquiétantes, Oniki a cru qu'ils allaient se jeter sur elle et la violenter. À Corallion, des histoires abominables courent sur le compte des criminels, des psychopathes, des putains, des trafiquants et des malades mentaux qui composent le petit monde des proscrits. Mais curieusement, ils sont exempts de toute violence, comme si leur stérilisation les avait également amputés de leur agressivité. La beauté d'Oniki éblouit les hommes, bien sûr, mais il témoigne à son égard d'un respect et d'une douceur infinie. Il la vénère comme une déesse descendue des cieux pour les éclairer de sa grâce. C'est Soji, la vieille tutale, qui la première a deviné qu'Oniki était grosse. Elle l'a publiquement annoncé lors d'une veillée et, depuis, les proscrits, hommes et femmes, se mettent en quatre pour agrémenter la vie de la future mère. On lui offre les plus beaux poissons, les marnilles à la savoureuse chair rose, les plus grands homards gris enveloppés dans des algues, les huîtres géantes dont on casse les coquilles nacrées avec de gros galets. On décore sa grotte, une excavation basse et voûtée de fleurs de mer, des astéries à 7 branches, dont Soji récupère le venin pour confectionner de mystérieux élixirs. Une bulle lumière a été laissée à l'entière disposition de Niki. Il ne s'agirait pas qu'elle se heurte aux excroissances des parois rocheuses, qu'elle trébuche sur les innombrables saillies du sol, qu'elle se perde dans le labyrinthe des galeries communicantes. On ne la questionne jamais au sujet du père. Tous les hommes de l'île ont d'ores et déjà endossé cette paternité. On ne s'occupe que de son ventre qui gonfle comme une voile tendue par le vent de l'espoir. Quelques simples d'esprit, au visage grimaçant et au rire stupide, forment sa garde personnelle, l'accompagnent dans tous ses déplacements, se relaient pour surveiller l'entrée de sa grotte. Ceux-là n'ont fait l'objet d'aucune condamnation officielle. Ce sont leurs familles qui se sont chargées de les stériliser et de les expédier sur l'île. Sur Efren, les fous incarnent le malheur, le déshonneur. On les dit envoûtés par les harpies des abîmes sidéraux et on les considère comme des portes ouvertes sur les enfers. La plupart du temps, les pères s'en débarrassent discrètement en leur attachant une pierre autour du cou et en les jetant dans l'océan. L'Église kreutzienne a officiellement interdit cette pratique. Le Kreutz, dans son infinie bonté, aime tous ses enfants et seuls les infidèles, les incroyants, sont bannis de son cœur. Mais de nombreux Éphréniens continuent d'offrir leurs enfants possédés à l'eau noire du Gigen. Les autres, soubresauts d'amour ou peur des représailles, les bannissent pour l'éternité sur l'île de Psalion. Jamais les simples d'esprit n'importunent Oniki. Ils la suivent à distance, respectent ses longues méditations, ramassent sur le sentier les cailloux qui pourraient blesser ses pieds nus, veillent à ce qu'elle soit le mieux assise lors des veillées, à ce qu'elle soit la mieux servie au moment des partages, à ce qu'elle soit la mieux éclairée lorsqu'elle se retire dans sa grotte. Un sourire, un regard, un geste de la main d'Oniki suffisent à les payer de leur dévouement. Elle ne sait pas comment exprimer sa gratitude aux villageois, aux adorateurs de son ventre, à ses proscrits hirsutes sales et vêtus d'algues puantes. Elle ne leur est d'aucune utilité. On lui est interdit de participer aux travaux de nettoyage, de pêcher, d'entrelacer les algues, de filer les lichens corallins, de préparer les poissons, d'ouvrir les huîtres, de décortiquer les crustacés. Elle n'a rien d'autre à faire que de descendre jusqu'à la grève, de s'installer sur un rocher et de s'abandonner à l'obscurité, au vent du large, au grondement de l'océan. Sa garde de fous s'assoit sur le sable, à ses pieds. Leurs visages blêmes, lisses, et leurs bras nus se découpent sur le rideau de ténèbres. Tout près se dresse un pilier de soutènement battu par les vagues. Oniki s'abîme dans ses souvenirs. Les mains et les lèvres caressantes de son prince se substituent aux effleurements de l'air. Elle hume son odeur, elle ploie sous son poids, elle boit sa sueur et son sang. Bien qu'il soit magicien, les hommes masqués de blanc, les mercenaires de Prithiv lancés à sa poursuite l'ont traité de sorcier. Qu'il ait la faculté d'apparaître et de disparaître à volonté, et bien qu'elle soit désormais libre d'aimer, il n'est jamais venu la voir sur l'île de Psalion. Il lui a dit de garder l'espoir, et c'est ce qu'elle s'efforce de faire. Elle ne l'a connu que l'espace de quelques heures, mais elle pressent qu'ils se sont liés pour l'éternité, qu'ils se sont épousés depuis la nuit des temps. Parfois, elle ne peut endiguer le flot de ses larmes, et elle s'aperçoit que les fous pleurent avec elle. Il ne fait ni chaud ni froid sur Psalion. D'une marée à l'autre, la température ne varie que de quelques degrés. Comme il n'y a aucune forme de végétation, aucune lumière naturelle, l'oxygène colporté par les courants d'air depuis les grandes orgues s'y fait rare, et peut-être est-ce une autre explication de l'étrange sérénité des proscrits. Ici, les gestes brusques, l'énervement, les disputes ne réussiraient qu'à dilapider les précieuses molécules. Souvent, un étau comprime la poitrine d'Oniki. Elle passe de plus en plus de temps à dormir dans sa grotte. Son prince la visite dans ses rêves, soulève sa couverture d'algues séchées, sa robe grise, et contemple son ventre rond. Un tel amour irradie de ses yeux sombres qu'elle se réveille en sursaut, qu'elle se redresse, les bras tendus. Mais elle n'étreint que le vide, retombe sur sa couche et le sentiment de solitude qui la suffoque l'empêche de retrouver le sommeil. Le temps se fige, se suspend. Il lui fallait attendre qu'Oniki fût endormi pour aller lui rendre visite dans sa grotte. Il avait élu domicile sur un continent noir, une terre désolée située à 3000 kilomètres de Psalion, et que les Éphréniens n'avaient jamais exploré. Relié à la fréquence vibratoire de la jeune femme, il était instantanément averti des changements de son métabolisme. Il évitait d'apparaître lorsqu'elle était en état de veille, car il détectait dans son cerveau les ondes froides d'un inquisiteur. installé dans une aquasphère de pêche à quelques lieues de l'île, il faisait en sorte que le Skaït interprète ses visites comme des rêves, comme de simples leurres télépathiques nées de l'inconscient de la jeune femme. Dès qu'elle avait atteint l'état de sommeil profond, il se transportait par la pensée dans la grotte. Aux lueurs de la bulle lumière, il veillait sur elle pendant des heures, soulevait délicatement sa couverture d'algues séchées, observait, ému, son ventre qui grossissait de jour en jour. Elle était désormais sa force et sa faiblesse, sa force parce qu'il puisait en elle un nouveau désir de vivre, sa faiblesse parce qu'il se sentait responsable d'elle, de l'enfant qu'elle portait, et que cela créait d'indéfectibles liens, des devoirs, des contraintes. Il disparaissait dès que se manifestaient en elle les premiers signes d'éveil, encore plus malheureux qu'elle de ne pouvoir l'étreindre, la réconforter, l'étouffer sous les baisers, les caresses et les mots tendres. Cette incessante partie de cache-cache avec l'inquisiteur avait quelque chose d'intolérable, d'absurde, mais c'était la seule manière de les préserver, elle et l'enfant, des atteintes des Skaïtes d'Hyponéros. Ils se servaient d'elle comme d'un appât. Ils avaient bien failli parvenir à leur fin 6 mois plus tôt. L'échec de leur intervention n'avait tenu qu'à quelques minutes. Si les mercenaires de Prithiv s'étaient introduits dans la cellule au moment précis où Oniki et lui s'abîmaient dans le plaisir, ils n'auraient pas capté leur approche. Ils l'auraient tué, cryogénisé ou endormi. Ils auraient définitivement brisé la chaîne des maîtres de Linda. Il avait l'impression d'être un banni de l'amour, un voleur d'intimité. À cause de lui, on avait traité Oniki comme une criminelle. On l'avait ignominieusement chassé du Touta. On lui avait interdit de grimper dans les tuyaux des grandes orgues. N'était-il donc destiné qu'à semer le malheur autour de lui? Était-il donc condamné à rater tout ce qu'il entreprenait? Le fou des montagnes, son maître, était parti trop tôt, sans doute pressé de se rendre à l'appel envoûtant de l'autre monde. Rien n'avait laissé prévoir son départ. Le crépuscule était paisible. Les senteurs capiteuses des fleurs printanières vagabondaient dans l'air tiède, la brise jouait délicatement dans les frondaisons, les trilles des oiseaux saluaient le soleil couchant. L'ombre dentelée du massif des Imlias se découpait sur le ciel empourpré. Une colonne de lumière blanche était soudain tombée des cieux. « Et maintenant, à toi de déterminer si les humains sont dignes de vivre. » avait déclaré le fou avant de prendre place au centre de la colonne. Shari, âgé de 12 ans, avait subitement pris conscience que l'heure de la séparation avait sonné, alors qu'il n'avait pas encore entamé sa formation de guerrier du silence. Alors Kafikit et Tixou, ses parents d'adoption, avaient disparu depuis de longs mois, selon eux pour explorer Terra Mater, le berceau des humanités, selon le fou, pour explorer leur amour en toute tranquillité. « Mais comment le saurais-je ? » avait balbutié Shari, les yeux brouillés de larmes.
« La réponse est en toi. »«
Tu ne m'as rien appris. Reste encore un peu. »«
Tu n'avais pas envie d'apprendre. Et mon temps s'achève, Shari Rampouline. On m'appelle à d'autres tâches. On ne peut pas remplir une cruche fêlée. »
Une immense tristesse imprégnait sa voix, et Shari s'était tout à coup souvenu qu'il avait préféré se promener sur le dos de sa pierre volante, se baigner dans les torrents, se sécher au soleil et jouer avec les aïouls plutôt que de suivre l'enseignement du fou des montagnes. Son insouciance, probablement la peur inconsciente d'être confronté à son destin, lui avait fait manquer la cérémonie d'initiation au son de vie, à l'antra.
« Reste, je te promets de rattraper le temps perdu. »«
Tu le rattraperas sans moi, » avait murmuré le fou. « Mon rôle était de te préparer à subir ton épreuve ultime, mais je me devais de respecter ton libre arbitre. Tu es le dernier maillon de la chaîne de Linda. Tu as le choix entre rester le simple reflet de la conscience collective humaine et devenir son nouveau souffle. » Sa nouvelle étincelle. Moi, je ne suis qu'un témoin, un dépositaire du verbe de Linda. Je n'ai pas le pouvoir d'infléchir la destinée humaine. Pendant plus de 150 siècles, j'ai vu l'homme s'identifier à ses limites, perdre peu à peu la mémoire, se couper de son éternité. J'étais le gardien de la connaissance, de l'arche de lumière, des annales indiques, et nombreux sont ceux qui se sont lancés à ma recherche. La plupart ont échoué, mais quelques-uns ont reçu des bribes de connaissances, des révélations partielles, et ceux-là ont essayé d'apporter les fragments du Verbe à leurs frères humains. Et leurs frères humains les ont tués, les ont torturés, ou bien ont fondé des religions fanatiques en leur nom.
« Moi, je trouverai l'arche tout entière !» s'était écrié Chari.
Un sourire las s'était esquissé sur la barbe du fou. La lumière qui l'enveloppait transperçait peu à peu ses yeux noirs, sa longue chevelure de jais, sa robe grise.
« Je ne serai plus là pour te guider, mais si tu en ressens le désir sincère et si tu fais preuve de persévérance, peut-être pourras-tu défricher le sentier et permettre aux humanités de contacter la source, leur source. Dans le cas contraire, ce sera la fin des hommes et l'avènement d'une nouvelle ère, l'ère de l'hyponéros.
Donne-moi au moins une indication, une seule.
Du corps du fou, il ne reste plus qu'une forme étincelante au centre de la colonne blanche.
Concentre-toi sur le son, Chari Rampulin, fils de Naona. Écoute le son fondamental, le son de la création, l'antra.
Sa voix se transforma peu à peu en un murmure musical, en un subtil bruissement de source. Puis un lourd silence retombe sur les montagnes des Himlias et Chari s'effondre sur le sol. Secoué de lourds sanglots, la face dans l'herbe, il ne voit pas son compagnon se métamorphoser en être de lumière et prendre son envol. Il ne voit pas la colonne blanche se rétracter, se dissoudre peu à peu dans la nuit qui cerne les reliefs. Il éprouve un cruel sentiment d'abandon et d'échec, un désespoir identique à celui qui l'avait submergé devant la pierre du champ en Fanique quelques années plus tôt. Le fou des montagnes, cet être mystérieux que les enfants du peuple amérine surnommaient le serpent des enfers, le démon, le rejeton de la sorcière nucléaire et des atomes de fission, l'avait alors éclairé de ses conseils. Puis il l'avait recueilli lorsque sa mère avait été surprise en flagrant délit d'adultère et soumise au champ de mort. Il lui avait appris à maîtriser le vol de la pierre. À sa manière, il l'avait aimé comme un fils. Qui lui viendrait en aide à présent? Il est seul dans la nuit froide, seul avec ses regrets, seul avec sa détresse. Les paroles du fou résonnent en lui comme de terribles accusations.
Tu n'avais pas envie d'apprendre. On ne peut pas remplir une cruche fêlée. Ce sera la fin des hommes, l'ère de l'hyponéros.
Il a côtoyé un être d'exception. Il n'a pas su reconnaître la valeur de sa parole. Il est passé à côté d'une chance unique. Le gardien de l'arche, des annales indiques, le témoin vigilant de la longue histoire des hommes, s'est à jamais retiré, emportant ses secrets avec lui. C'est dans ce cruel mépris de lui-même que Chari s'endort, recroquevillé sur l'herbe imprégnée de rosée. Il se débat toute la nuit dans d'horribles cauchemars. Cueilli par les rayons blafards de l'aube, il découvre, à l'emplacement où se tenait le fou, un massif épineux couvert de fleurs aux pétales scintillants, diamantins. 3 jours durant, désemparé, hébété, il reste assis devant ce buisson. Il espère, sans trop y croire, que sa persévérance tardive fera revenir son ancien compagnon sur sa décision. Il lutte contre les pensées morbides qui l'assaillent. Les oiseaux, attirés par les fleurs brillantes, effleurent le massif sans oser se poser sur les branches hérissées d'épines.
Chari, Qu'est-ce que tu fais là ?
La voix mélodieuse a retenti dans son dos. Il se retourne et aperçoit les silhouettes d'Afikit et de Tixou qui se découpent sur le fond de clarté. Ils sont vêtus de somptueuses étoffes aux motifs changeants, qui ne rendent qu'un pâle hommage à leur beauté. Shari se lève, avec difficulté car il n'a pas une seule fois changé de position en 3 jours, et se jette dans les bras d'Afikit. La douceur et la tiédeur de la jeune femme l'apaisent. Entre deux crises de larmes, il s'efforce de relater le départ inopiné du fou des montagnes, de rapporter aussi fidèlement que possible ses ultimes paroles. Afikit et Tixou prennent alors conscience que le temps des hommes est compté. Ils décident d'initier Shari au son de vie et improvisent une cérémonie devant le buisson aux fleurs brillantes. C'est elle qui lui transmet l'antra. Une vibration prolongée semblable au bruissement qui a précédé l'ascension du fou. Le son déroule ses anneaux de feu à l'intérieur de Shari. Une telle chaleur se diffuse en lui qu'il a l'impression d'être dévasté, incendié, anéanti. Puis, l'antra trouve sa place, se niche dans un recoin de son esprit et n'émet plus qu'un chuchotement étouffé, paisible. Afikit l'embrasse. Il est désormais un chanyan, un initié, un héritier de la longue tradition de la science indique. Il ne lui faut que 2 jours pour maîtriser le voyage instantané. Le son, aussitôt invoqué, expulse les pensées superflues, interrompt le bavardage intempestif du mental et le remorque jusqu'à la citadelle du silence, là où l'esprit et la matière ne font plus qu'un, là où les intentions s'habillent d'ondes et de formes. L'antra est un soliste du cœur de la création, du verbe, un lien sonore entre l'énergie fondamentale et les hommes. Pendant des mois, Shari s'abandonne à l'ivresse de la découverte, apprend à s'orienter dans les couloirs infinis de l'éther, explore en compagnie d'Afikit et de Tixou les continents de Terra Mater, la Phrysie, l'Europe, la Meurine. Malgré les secousses sismiques, les inondations, les éruptions et les guerres qui ont ravagé la planète, subsistent ça et là des ruines historiques, des vestiges de grandes cités aux noms oubliés, des témoins antiques et muets de la rage avec laquelle les hommes se sont aimés et haïs. Shari passe maintenant des semaines entières devant le buisson du fou, sans bouger, sans dormir, sans manger, sans boire, parcourant une à une les routes passées, présentes ou futures qui s'ouvrent à lui et qui mènent, le plus souvent, à des impasses. Inlassablement, il cherche le sentier de l'Arche de Lumière, de l'endroit secret où sont archivées les annales indiques, où gît la mémoire des hommes. Afikit et Tixou veillent sur lui. Comme lui, ils ont le sentiment d'avoir fait preuve d'une désinvolture coupable vis-à-vis du fou des montagnes. Leur amour les absorbait à tel point qu'ils n'ont pas pris conscience de l'urgence de la situation. Pendant qu'ils s'affairaient à se découvrir l'un l'autre, qu'ils s'empressaient de reconnaître le territoire de leurs émotions et de leurs sens, qu'ils abritaient leur intimité sur des mondes déserts, les Skaïtes d'Hyponéros resserraient leur emprise sur les humanités des étoiles. Alors, comme Shari, ils tentent de rattraper le temps perdu. Assis l'un en face de l'autre à quelques pas du buisson, les mains jointes, ils voguent sur la vibration de l'antra, en quête d'indices, de signes qui pourraient guider leur jeune protégé sur la voie. Pendant plus de 2 ans, ils ne s'interrompent que pour manger des fruits, des graines ou des racines, dormir dans des grottes, enroulés dans des couvertures, se baigner dans l'eau claire d'un torrent proche. Parfois, Shari les surprend nus et enlacés sur la grève d'herbe du cours d'eau. Il perçoit leur rire, leur soupir, leur gémissement. Et il se dit que l'amour, cet amour dont on l'a brutalement sevré à l'âge de 7 ans, est la plus belle invention des hommes. Bien que ravi de voir ses parents d'adoption se nourrir ainsi l'un de l'autre, il ne peut s'empêcher d'éprouver un petit pincement au cœur. Il craint que son destin ne le condamnera à rester seul jusqu'à la fin des temps. Comme le fou des montagnes, cet homme,
Était-ce vraiment un homme qui a vécu pendant plus de 15 000 ans dans la solitude glacée des montagnes des Himalayas? Les premiers pèlerins se matérialisent sur le continent Amerine, à plusieurs milliers de kilomètres de la chaîne des Himalayas, lorsque Shari atteint l'âge de 15 ans. Afikit et Tixou, vigilants, détectent instantanément leur présence. Leurs ondes grossières, bruyantes, offensent le silence des champs antriques. Une rapide inspection de leurs esprits, Afikit et Tixou répugnent à utiliser les méthodes des Skaït inquisiteurs, mais ils se doivent de prendre toutes les précautions, les informent de la pureté des intentions des visiteurs. Ils sont 4, 3 garçons et 1 fille, qui viennent de Spain et qui ont travaillé durement pour payer leur transfert clandestin. On leur a raconté la légende de Nayafikit et de Sri Lumpa. Ils y ont cru et ont décidé d'aller au bout de leurs rêves. Afikit et Tixou se transportent sur le continent Amerine et apparaissent aux 4 spéniches au milieu d'un océan d'herbes qui ondule sous des attaques virulentes d'un vent chaud et sec. L'émotion étrangle les voyageurs, incapables de prononcer une phrase cohérente, agenouillés, en larmes. Afikit et Tixou les initient dès le lendemain au son de vie. Plus ils seront nombreux à entourer Shari, et plus ses chances augmenteront de retrouver le sentier de l'arche et de sauver les humanités de l'effacement. Après la cérémonie, Tixou reste sur place pour apprendre le voyage mental aux 4 nouveaux Shanyan, tandis qu'Afikit retourne auprès de Shari. Les semaines suivantes, d'autres pèlerins s'échouent sur Terra Mater. Les uns sont débarqués par un vaisseau de contrebande sur le continent d'Europe, d'autres ont utilisé les services des réseaux de passeurs et se rematérialisent comme les Spénich en Amerine. D'autres ont investi en force une agence de la CILT et ont reprogrammé le déromat de la compagnie. Cela, Tixou doit les repêcher dans l'océan Pacifique. D'autres, enfin, ont fait le voyage à bord d'une antique nef à voile captrice dérobée dans un musée et se pose sur un minuscule îlot d'un atoll de l'hémisphère sud. Ils proviennent de tous les mondes de langue empire, Markina, Isigor, Franzia, Aleman, Dalomip, Nouenland, les Nas giganthropes, tous mus par la même volonté de s'enrôler dans l'armée mythique des guerriers du silence. Tous sauf un garçon de 10 ans originaire du 6e anneau de Sbarahu, Mikle Manuna, transféré par erreur sur Terra Mater par l'employé d'une agence de la CILT. Mais le petit Mikle, s'il n'a pas eu envie de venir, n'a pas eu non plus envie de repartir. C'est dans une atmosphère recueillie mais joyeuse que les pèlerins reçoivent leur initiation et se lancent dans leur nouvelle existence. On construit des maisons de pierre et de branchages au pied du massif des Himalayas. On cultive des légumes et des céréales sur un petit lopin de terre. On se serre les uns contre les autres les nuits froides où le vent transperce les vêtements et les couvertures, et souvent, autour du buisson aux fleurs coruscantes, on prie Tixou de raconter l'histoire qui lui a valu son nom de Sri Lumpa. Il s'exécute de mauvaise grâce, lâche quelques mots au sujet des lézards des fleuves et de Kacho Marum, Anima Sadumba des 2 saisons, et c'est Afikit qui prend le relais, qui enjolive, qui ajoute des détails, qui finit par se moquer de son mari dans un grand éclat de rire. On se répartit les tâches selon les envies, selon les aptitudes. Les uns, les vigiles, établissent un infranchissable rempart de silence autour des Himalayas et s'entraînent à détecter toute présence, amicale ou hostile, sur la planète. D'autres, les Satriyas, mot indique qui signifie guerrier, et se regroupent et envoient sans relâche des vibrations de lumière vers les mondes colonisés par les humains. Les derniers, les Vasyas, les serviteurs, effectuent les menues tâches quotidiennes, se consacrent au bien-être de Nayafikit, de Sri Lumpa et de Shari, immergés corps et âme dans des périodes de silence et de continence de plus en plus longues, parfois durant des mois. Des changements spectaculaires s'opèrent dans la physiologie de Shari. ses yeux s'assombrissent, se renfoncent profondément sous les arcades proéminentes. Ses cheveux noirs, bouclés, encadrent un visage maintenant émacié. Il semble avoir vieilli prématurément. Il a atteint sa taille adulte alors qu'il n'est pas encore âgé de 16 ans. Les os saillent sous sa peau brune, rétractée, parcheminée. Lorsqu'il sort de ses longues périodes de silence, il descend de la haute montagne, s'assoit près du buisson du fou, autour duquel s'est établi le village des pèlerins, et prend la parole. Il parle pendant des heures de la chaîne vibratoire, de la source lumineuse, de la souveraineté créatrice et de la divinité humaine. Les mots qui jaillissent spontanément de sa bouche se fichent avec une puissance inouïe dans le cœur des pèlerins qui, les jours suivants, s'efforcent de mettre en pratique ses conseils. C'est ainsi qu'il acquiert le statut de Mahdi.
« Le maître vient quand les disciples sont prêts », disait souvent le fou des montagnes.
Pourtant, Shari n'a pas encore trouvé l'entrée du sentier secret, et il lui manque l'élément qui lui permettrait de jeter un pont entre l'homme et la création. Il a tantôt l'impression que la matière et l'homme sont indissociablement liés, comme façonnés dans le même creuset d'amour et de chaleur, et tantôt il lui semble qu'ils sont étrangers l'un à l'autre, que l'un n'est qu'un accident de l'autre, et que l'une ne cherche qu'à précipiter le malheur de l'autre. L'arche de lumière recèle probablement la clé de cet apparent paradoxe. De temps en temps, il rejoint Afikit et Tixou dans la maison de pierre que leur ont construite les pèlerins, et ils passent la nuit à discuter. De ses parents d'adoption, d'Afikit surtout, coule ce flot de tendresse qui le relie à sa propre humanité et au sein duquel il lui est indispensable de se plonger. Sans eux, sans leur amour, il ne serait pas certain de revenir parmi les hommes. Il resterait peut-être dans les sphères de l'esprit. Il s'installerait dans les champs subtils où n'existe ni espace, ni temps, ni désir qui crée l'espace et le temps. Il deviendrait un être immatériel, un souffle, une étincelle, un son, une onde. Sans eux, il n'aurait peut-être plus le courage de réintégrer le monde des formes, de réinvestir son corps. Ses immersions dans le silence lui procurent un tel sentiment de liberté et de légèreté que les retours dans la prison de chair s'accompagnent d'une douleur effroyable, d'une odieuse sensation de déchirement. Et seuls les bras et la poitrine d'Afikit ont le pouvoir d'apaiser sa souffrance, de le renforcer dans sa détermination. Il ressent une joie immense lorsqu'elle lui annonce qu'elle est enceinte. Lui, le fils unique, il pourra enfin cajoler un petit frère ou une petite sœur. C'est par hasard qu'il découvre l'entrée du sentier. Il s'est assis, comme d'habitude, sur le versant d'un mont blanchi par les neiges éternelles. Un aïoul noir s'est posé à quelques mètres de lui. La douce couleur du soleil de printemps berce chacune de ses cellules. Depuis quelques heures, quelques jours ou quelques mois, la notion de temps n'existe pas dans cet état. Il dérive sans but sur des courants d'énergie intérieure. Par lassitude, il a lâché toutes les prises. Une porte de lumière blanche se découpe soudain sur le fond infini de son âme. Elle l'attire, elle l'appelle. Il en franchit le seuil et s'engage sur une route éblouissante, étroite, bordée de ténèbres tellement denses, tellement concentrées, qu'elles dressent d'infranchissables murailles sur les côtés. Au fur et à mesure de sa progression, le passage s'étrangle et le vide se resserre autour de lui. Des lames glaciales le transpercent, le dépècent, le déstructurent, s'attaquent à l'essence même de son être. Il n'est pas confronté à la mort, à ce doux abandon de la dépouille corporelle usée, mais à quelque chose de terrifiant qui s'apparente à la non-vie, au vide absolu. Il lutte contre la peur, contre la tentation de rebrousser chemin. Le néant pensait avoir accompli le plus difficile. Ses féaux œuvrent sur toutes les planètes habitées, effacent la mémoire des humanités, Le fou des montagnes s'est envolé vers un autre univers après plus de 15 000 ans d'une surveillance jamais prise en défaut. Tout est prêt pour l'avènement de l'informe. Et voilà que se présente un humain sur le sentier de l'Arche de Lumière. Un humain qui, s'il persiste dans son entreprise, pourrait fort bien reconnecter les siens à leur souveraineté. Cela fait des millénaires et des millénaires que l'incréé combat l'humanité, qu'il détourne la parole des vrais prophètes, qu'il sème la mort et la désolation, qu'il éloigne l'homme de sa source, qu'il l'identifie à ses sens, qu'il le sépare, qu'il le divise, qu'il le fragmente. Depuis le commencement, depuis que les premières étincelles ont jeté leur insupportable lueur, depuis que la chaleur convulsive a enfanté les ondes puis les formes, depuis que les dieux ont décidé d'expérimenter leur création, l'incréé a sans cesse reculé, vaincu par le cœur des ondes vibrantes et par la densité de l'être. L'incréé a assisté impuissant au déploiement flamboyant de l'univers. Et c'est au moment où il a inversé la tendance, où il est sur le point d'obtenir les dividendes de son patient travail de déstructuration, que surgit cet importun en quête de ses origines. Shari entrevoit, dans le lointain, une magnifique construction de lumière. Un temple à 7 colonnes et aux parois ornées de vitraux à l'incomparable éclat. L'Arche, l'endroit secret qui renferme les annales indiques, la mémoire humaine, les lois immuables de la création. Une émotion intense l'étreint. Il presse maintenant l'allure car les attaques de l'incréé se font de plus en plus virulentes, de plus en plus effrayantes, et le froid qui le traverse, qui l'engourdit, est d'une intensité insoutenable. Il a l'étrange impression que l'Arche se recule au fur et à mesure qu'il s'en approche. L'informe, s'il ne peut pas lutter à armes égales avec les humains sources, exploite instantanément les failles des humains séparés. Il s'engouffre avec voracité dans l'esprit de Shari, déterre des souvenirs enfouis, exploite les carences affectives, stimule les doutes, ravive les peurs. La cohérence de Shari, morcelée, fractionnée, se désagrège subitement et toutes les parties de lui-même, isolées, cernées par le vide, entrent en conflit. Des torrents de haine et d'épouvante le submergent, l'emportent. Les contours et le chemin de l'Arche s'estompent, s'évanouissent. Il est happé par les bords d'une spirale infiniment noire et froide au cœur de laquelle il perd connaissance. Il s'était réveillé sur la banquise d'une planète nocturne et déserte. Anéanti par son échec, il n'avait pas cherché à regagner Terra Mater. Ses disciples l'avaient élevé au rang de Mahdi, il ne s'estimait pas le droit de leur offrir le visage de la défaite. Il n'accepterait de se représenter devant eux que lorsqu'il aurait réussi son épreuve. De toute façon, il aurait voulu retourner près d'eux qu'il en aurait été dans l'incapacité. La vibration de l'entrale avait déserté. Provisoirement, il voulait l'espérer. Il avait dû marcher pendant des jours et des jours sur l'étendue glacée, affamé, transi, suçant des morceaux de glace pour étancher sa soif. Il avait trouvé refuge dans une galerie souterraine réchauffée par une source sulfureuse et chaude. Il s'était nourri d'une substance ambrée et sucrée qui suintait des parois vivantes, mouvantes, bruissantes de son abri. Il avait passé beaucoup de temps à dormir, comme si son corps éprouvait le besoin de compenser les nombreuses nuits de veille qu'il avait consacrées à la recherche du sentier. Le reste du temps, il avait pensé à la cruelle désillusion de ses disciples, de ces chercheurs de vérité qui avaient traversé l'espace, parfois au péril de leur vie, pour le révérer comme un maître. L'idée de se donner la mort l'avait effleuré à plusieurs reprises, mais l'image d'Afikit et de Tixou, la pensée du petit frère ou de la petite sœur, lui avait à chaque fois traversé l'esprit, et l'avait dissuadé de commettre l'irréparable. Envahi d'un sombre pressentiment, il s'était dit qu'il ne les reverrait jamais, qu'il ne tiendrait jamais le petit frère ou la petite sœur dans ses bras. Quel souvenir garderait-il de lui? La déception qu'il leur avait causée s'effacerait-elle avec le temps? Oui, sans doute, car ils étaient généreux, enclins au pardon. Lui, en revanche, ne pourrait se pardonner tant qu'il n'aurait pas pénétré dans l'arche et pris connaissance des annales indiques. L'antra avait résonné lorsque le corps de Chari, reconstitué par des bains prolongés dans le lac chaud et soufré, avait été apte à le recevoir. À l'issue d'une immersion de plus de 7 ans dans le silence, il avait de nouveau aperçu la bouche de lumière, s'était aventuré sur le sentier, avait entrevu l'arche. La peur, atroce, insoutenable, s'était emparée de lui au moment où il franchissait la porte du temple. Il avait oublié ses résolutions, s'était laissé dépecer par les lames du néant, avait été aspiré par les bords de la puissante spirale de vide. L'informe avait eu raison de lui pour la 2e fois. Il avait repris connaissance à l'intérieur d'une petite pièce au mur blanc. Il s'était vaguement souvenu qu'une jeune femme l'avait transporté sur ses épaules et l'avait allongé sur un lit. Il s'était rendu compte que l'antra, contrairement à ce qui s'était passé après sa première tentative, continuait de vibrer en sourdine dans un recoin de son être. C'était peut-être un progrès, le signe que son métabolisme commençait à tolérer les atteintes de l'incréé. Il avait donc décidé de se remettre immédiatement au travail. « Contactez la source », avait dit le fou des montagnes, « ou ce sera la fin des hommes ». Il avait soudain perçu des bruits de pas, puis le cliquetis d'une serrure. Pris de court, encore faible, il n'avait pas cherché à capter les intentions de la personne qui s'introduisait dans la pièce. Il s'était instantanément transporté dans les zones les plus fines de l'éther, des couches subtiles, inaccessibles à un esprit non entraîné. Il avait soustrait son corps à la perception visuelle ordinaire. Elle n'avait pas détecté sa présence. Mais lui l'avait vue, et sa beauté l'avait saisie. Elle portait la magnificence de son âme sur son visage. Ne voulant rien perdre de ses gestes, il l'avait suivie dans la salle d'eau. Elle s'était déshabillée, avait écarté le rideau de la douche, et s'était abandonnée aux caresses de l'eau chaude. Bouleversé, il n'avait pu détacher son regard de sa longue chevelure noire et lisse, de sa peau ruisselante et cuivrée, des auréoles brunes qui ponctuaient les collines émouvantes de ses seins. Avant elle, Chari ne s'était jamais préoccupé des femmes. La tendresse maternelle d'Afikit avait été sa seule référence en la matière. Il ne s'était même pas posé la question de savoir si le statut de Mahdi était compatible avec la vie de couple pour la bonne et simple raison qu'il n'avait jamais perçu le chant de l'amour, qu'il n'avait jamais ressenti l'appel tyrannique de la chair. Le corps de Niki l'avait brusquement relié à ses racines primitives, animales. Il s'était tout à coup senti masculin. Des frémissements avaient parcouru son bas-ventre et un désir violent s'était emparé de lui. Il avait aussitôt abaissé ses vibrations et s'était rematérialisé devant la jeune femme. Le premier moment d'effroi passé, elle avait dénoué son drap de bain et s'était offerte à lui comme si leur union avait de tout temps relevé de l'évidence. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils avaient spontanément trouvé les attitudes et les mots justes, la douceur et l'impétuosité justes. Aucune fausse note n'était venue briser l'harmonie de leurs corps enchaînés. La chaleur du ventre, de la bouche, des mains et des lèvres d'Oniki, la rage de ses ongles et de ses dents, la saveur sucrée de sa salive, le goût âcre de sa sueur et l'odeur épicée de sa peau avaient accompli le miracle de le réconcilier avec lui-même, avaient effacé les remords, la culpabilité, les doutes, avaient rassemblé les débris de son humanité éparse.
Oniki la Tutal avait été le champ fertile où Shari, le fils de Nayona Rampulin, le Mahdi des Imlias, le dernier maillon de la chaîne de Linda, avait enfin signé le traité de paix avec lui-même. Ce n'est que lorsque les mercenaires de Prithiv avaient surgi dans la cellule qu'il avait pris conscience du sacrifice qu'il avait exigé d'elle. Elle était devenue une pécheresse, une réprouvée. Elle avait dû s'enfuir comme une criminelle pour ressentir une dernière fois la joie de l'escalade dans les tuyaux des grandes orgues. Ses sœurs l'avaient condamnée à vivre dans la nuit perpétuelle de l'île de Psalion. Les quelques renseignements que les Skaïtes avaient captés dans son esprit sans défense avaient éveillé leur curiosité, et ils avaient dépêché un inquisiteur pour surveiller ses pensées. Oniki et Shari se languissaient l'un de l'autre, mais ils ne voulaient pas faire courir le moindre danger à la jeune femme et à l'enfant qu'elle portait. Elle n'était pas protégée par l'antra. Il aurait fallu qu'il se matérialise devant elle pour l'initier, et l'inquisiteur, immédiatement informé, aurait alerté les mercenaires de Prithiv qui se tenaient près d'un déromate programmé aux coordonnées de Psalion. Il était donc condamné à la visiter pendant son sommeil, à la toucher seulement des yeux. La beauté d'Oniki, effleurée par les lueurs mourantes de la bulle lumière, l'émouvait toujours autant. Il percevait les respirations bruyantes des fous, assis ou allongés près de l'entrée. Il remonta la couverture d'algues séchées sur le corps déformé de la jeune femme. La décision qu'il venait de prendre lui arrachait le cœur et des larmes brûlantes roulaient sur ses joues. Ses visites, même déguisées en rêves, faisaient planer un danger incessant au-dessus d'Oniki, et les proscrits d'Ephren s'occuperaient très bien d'elle et de son enfant. Il avait déjà trop attendu. Le temps s'égrenait et les humanités s'effaçaient peu à peu de l'univers. Il lui fallait maintenant affronter et vaincre l'incréé, le terrible gardien de l'Arche de Lumière. Il déposa un baiser furtif sur les lèvres d'Oniki, dont il arrosa les paupières et les joues de ses larmes, de ces quelques gouttes du sang de son âme.
« Mon prince, » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. Il respira son haleine, son odeur, sa chaleur, puisa dans ses ultimes réserves de volonté pour ne pas s'allonger à ses côtés et la serrer dans ses bras. Elle ne savait rien de lui, pas même son nom. Il reviendrait un jour. Il les couvrirait d'amour, elle et l'enfant. Il saurait forcer le destin. Il se fondit dans un couloir du silence au moment où elle ouvrait les yeux.
Oniki est entrée dans l'océan jusqu'à la taille. Elle examine attentivement le pilier de soutènement. Les fous qui ont peur de l'eau sont restés sur la grève de sable noir. Ils roulent des yeux effarés et poussent des gémissements assourdis. Ils se demandent quelle mouche pique la future mère, celle qui porte tous les espoirs du village. Pourquoi ne s'est-elle pas contentée de s'asseoir sur un rocher comme d'habitude? Oniki ne peut leur expliquer qu'elle doit impérativement s'occuper, combattre la tristesse poignante qui la submerge. Dans son rêve, elle a vu des larmes de sang couler des yeux de son prince. Elle s'est réveillée et a senti des gouttes tièdes sur ses paupières et ses joues, les a recueillies sur la pulpe de ses doigts, les a goûtées. Elle en a immédiatement reconnu la saveur. Elle a alors pris conscience qu'elle n'a pas rêvé, qu'il est apparu en chair et en os dans la grotte, qu'il l'a baignée de ses pleurs, que son immense détresse est liée à la perspective d'une longue séparation, et un noir oiseau de proie a planté ses serres dans ses propres entrailles. Il est possible de grimper sur ce pilier de soutènement, au moins sur sa partie basse. L'obscurité empêche Oniki de repérer d'éventuelles prises plus haut, mais cela ne coûte pas grand-chose d'aller vérifier. Puisque son prince est parti, elle pressent qu'il est gouverné par un destin hors du commun et quoi qu'il fasse ou qu'il aille, elle le soutiendra de son amour. Elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle refuse de mettre au monde son enfant dans un environnement de ténèbres.
Peut-être y a-t-il, au-dessus de Psalion, des tuyaux non explorés. Et puis, elle manque d'exercice. L'escalade lui fera du bien. Son ventre ne devrait pas représenter une gêne. Elle est habituée à porter des charges beaucoup plus lourdes. Les fous la voient avec stupeur passer sa robe par-dessus sa tête. Elle accroche son vêtement à une aspérité du pilier et se hisse à la force des bras hors de l'eau. Sa peau, qui a blanchi depuis qu'elle ne reçoit plus les rayons de Taouxine et de Xatimou, crève la nuit éternelle. Dès qu'elle entre en contact avec le corail, elle recouvre ses réflexes et son allégresse de tutale. Elle lève la tête, elle ne distingue pas le bouclier, mais elle sait qu'il se perche à plus de 800 mètres au-dessus d'elle. Elle se demande si elle aura la force de grimper jusqu'au sommet du pilier. C'est alors qu'une grêle de coups de pied lui martèle le ventre. L'enfant l'encourage, l'enfant aspire à la lumière. L'éclaboussement aigu des fous donne l'alerte aux villageois. Les proscrits des frênes, hommes et femmes, prennent peur qu'il soit arrivé malheur à la future mère, interrompent leurs travaux, sortent des grottes, dévalent le sentier et se rassemblent sur la grève. La vieille Soji, en ancienne tutale, a immédiatement compris que sa jeune sœur enceinte souffre du mal des grandes orgues. Le corps nu, blanc et rond de Niki, cerné par une nuée de mouettes noires aux yeux scintillants, se promène à présent une cinquantaine de mètres au-dessus de l'océan Guigène.